Et voilà, Onde Noire, deuxième partie.
Voilà, et à l'occasion du prochain roman dont je vais parler, je voudrais faire un petit coup de projecteur sur une très belle maison d'édition, une maison d'édition qui s'appelle Tusitala. Tusitala, c'est le nom d'une petite araignée, ou référence à cette toile, les infinies connexions que tissent les livres et la pensée en général. Tusitala, c'est déjà une très belle charte graphique. Un travail soigné, le nom du traducteur, par exemple, sur la couverture, ça fait plaisir. Un graphisme vraiment très beau, un beau papier. On a vraiment envie de prendre l'objet et de l'ouvrir. Et puis, il y a aussi le choix de l'éditeur, les choix de l'éditeur, Michael de Metz. Et puis, je dirais ses exigences de publier des textes forts, parfois les tirer de l'oubli, des textes anciens qui sont, j'allais dire disparus, non, mais qu'on ne peut plus trouver en librairie. Ou alors, parfois, comme c'est le cas pour le roman dont je vais vous parler, le faire traduire, car rester dans un tiroir dans son pays d'origine est jamais édité. Ici, l'américain en l'occurrence. Afin que la toile, en gros, s'agrandisse un peu, que quelques connexions s'établissent, afin que des ondes génère des réactions ou peut-être des actions. C'est, je dirais, aussi une forme de militantisme, quand, évidemment, on ne galvaude pas la définition de ce très beau mot.
Et dans ce cas-là, c'est absolument pas galvaudé, bien au contraire.
Voilà, donc le livre dont je vais vous parler, on va quand même y arriver. C'est un livre qui s'appelle Vulnérable, et c'est un livre, alors je suis désolée pour la prononciation du nom de l'auteur, Richard Kraviec ou Kraviec. Je sais, voilà. C'est traduit de l'anglais par Charles Recourcet et c'est un livre, voilà, qui dormait depuis plusieurs années dans un tiroir et qui vient d'être traduit aux éditions Tusitala. Dans la préface, l'auteur explique qu'un de ses amis a réagi il y a quelques années à la lecture de son premier roman, qui est aussi d'ailleurs aux éditions Tusitala. Il disait, cet ami, je sais que les pauvres existent, mais je n'ai pas envie de les voir dans les romans que je lis. Je dirais qu'heureusement qu'il y a des éditeurs, des libraires et des lecteurs qui ne pensent pas ainsi. Bon, ceci dit, je vous pardonne de ne pas avoir trouvé pour l'instant ces livres parce que ces éditions ne se trouvent pas forcément en haut de la pile chez votre libraire ou chez notre libraire. Il faut donc peut-être penser à les commander et à les réclamer. Je répète le titre de ce roman, donc Vulnérable. Et Vulnérable ici...
Est au pluriel déjà.
Oui, pardon, Vulnérable au pluriel. Normal, puisque... Il parle des enfants, ce sont les enfants. Ces enfants, livrés à eux-mêmes, dans des banlieues d'ouvriers, des gens, je dirais, entre guillemets, même pas pauvres, mais qui, pour ne pas l'être justement, et finir par voter Trump, cumulent plusieurs boulots, rentrent fatigués, et ne se préoccupent jamais de leur progéniture. Parce qu'en gros, on cumule plusieurs boulots, ou au contraire, qu'on alterne période de boulot ou période de chômage. Et en gros, à ce moment-là, comment prendre du temps? Avoir l'esprit libre. Insistons sur ce mot, libre. Avoir l'esprit libéré pour, entre guillemets, voir ses enfants, pour ne pas leur fournir que le gîte et le couvert, mais aussi toute l'attention qui enrobera leur vie entière, qui les protégera entre autres, des fléaux de la rue. Et surtout, surtout, les construira solides, à défaut d'être heureux. Dans ce roman, on va découvrir donc Billy, et c'est tout ce que n'est pas Billy, qui a la quarantaine, qui revient au début du roman, ou tente de revenir, au domicile parental. Pour une raison bien précise, c'est que ses parents ont été cambriolés, on a souillé leur petit pavillon. Je cite l'auteur, quand il parle du petit pavillon, il dit « Les boîtes obscures, des maisons perchées sur des terrains identiques, pilules en emballage individuel sur une plaquette. » C'est déjà une très très belle image.
Ça rappelle la chanson « Petite boîte ».
Ouais, « Little Box »,« Little Boxes ». Ils sont persuadés, les parents de Billy, être victimes d'une vengeance. Donc ils appellent le fils on va dire, prodigue, qui, lui, avant, a fait de la tôle, a dealé, a braqué, voire tué. Mais il est fort, il est grand. Ils aimeraient tellement, les parents, être protégés par leur fiston. Peut-être aussi un petit peu pour rattraper le temps, pour arriver à dire enfin des choses essentielles. Mais en gros, Billy, il va tenir une soirée. Il cogne. Il se cogne à tout et à tous. Donc à ses parents, à sa sœur, au beau-frère, aux frères. Même Sharon rencontrée dans un rad, dont il pourrait tomber amoureux. Même Stevie, c'est son petit-neveu. Un petit-neveu obèse. Déjà maltraité à l'école. Déjà chez le psy. On va dire déjà perdu. Comme son oncle Billy, qui, depuis qu'il a 10 ans, ne sait communiquer, comme je le disais tout à l'heure, qu'en cognant. Alors qu'on sent quand même, malgré tout, qu'il a tellement de choses à donner. Il dit de lui, et ça veut tout dire, « J'étais un homme sans définition ni but, un assemblage au jour le jour d'expériences aléatoires. » Voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Il faut découvrir Billy, il faut découvrir les personnages, en particulier les grands paumés de la vie que sont sa famille. Et je dirais que depuis très longtemps, le roman noir nous donne souvent des mauvaises nouvelles d'une Amérique des laissés pour compte, des marges, mais aussi des immenses espaces où l'être humain, petit à petit, se déconstruit et est ravagé par un modèle d'hyperconsumérisme de plus en plus prégnant. Mais attention, ce roman, c'est pas un livre de plus, car il sonde un aspect moins exploré, plus analytique. Comme je le disais au début, cette génération d'enfants, enfin, une génération, peut-être je devrais dire plusieurs générations, qui en gros, on va dire, sacrifiées au billet vert, au dollar. Ironie du sort. J'ai pas mal cité l'auteur, Richard Kraviec, je vais le citer encore. Billy, qui parle de son père. Sacrifice pour gagner un peu d'argent. Et quand il parle de son père, il dit « En 19 ans de mariage, il avait économisé 174 $. Je ne gagnais plus que cela en vendant de l'herbe pendant une semaine. » Devinez ce qu'a choisi Billy. Vous l'aurez compris, c'est un roman fort sombre. La violence est omniprésente, l'espoir juste aux abonnés absents pour toute la famille de Billy. Mais c'est aussi et surtout un roman en plein cœur de l'humain, sans aucun manichéisme, complaisance. Un roman qui arrive à saisir les tourments de l'âme humaine. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on entend dire, soit. Mais là je vous assure c'est vraiment vrai. Et tout ceci, toute cette prose, sans fausse pitié, ni manichéisme, comme j'ai dit d'ailleurs. Et puis, il y a quelque chose aussi, à travers chaque ligne, pratiquement, c'est la tendresse qui pointe très très souvent le bout de son nez. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le livre « Vulnérable » de Richard Kraviec, et c'est traduit de l'anglais par Charles Recourcet aux éditions Tusitala.
Alors, un petit peu de musique, c'est voilà. Toi qui vas...
Alors, une fois n'est pas coutume, j'allais le dire.
Tu as choisi.
C'est moi qui ai choisi la musique et je vais un petit peu le justifier. Donc, on va écouter un titre archi connu, très classique, de rock, un morceau des Stones qui s'appelle, avec mon merveilleux accent, Sympathy for the Devil. Et c'est un titre que cite Billy, le protagoniste, le personnage principal du livre dont je viens de parler. Et... des démons, il parle du diable, et c'est quand même un petit peu en enfer, la vie de Billy et les quartiers où il va zoner pendant tout le livre. Donc ça donne un écho avec ce roman, donc Sympathy for the Devil.
Washed his hands and sealed his face. Time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours. They reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh yeah. Get down in it.
Les Stones, donc Sympathy for the Devil, avec les fameux petits cris de Ian en chaleur de Mick Jagger.
Oh, oui, non, c'est bon, l'imitation. Parle-nous plutôt, donne-nous des nouvelles très noires de l'Italie.
Très noires, oui, noires, mais pas complètement, pas que. En fait, on va retrouver l'inspecteur Michele Ferraro, c'est l'inspecteur de Gianni Biondio. On avait déjà parlé de son précédent roman qui était paru chez Métayer en 2013 qui s'appelait Le matériel du tueur. Vous pouvez écouter dans les podcasts de notre émission si vous voulez. Et il en écrit d'autres dans cette série, mais apparemment l'éditeur n'a pas jugé bon de les faire traduire. Ils ont attendu celui-là. Et on peut déjà dire que Serge Cadruprani, qui les a traduits, eh ben, il a bien fait de s'atteler à la traduction de ce roman qui s'appelle Le charme des sirènes. Donc de Gianni Biondio. C'est un vrai bon polar noir à l'italienne. Alors il y a deux histoires dans ce roman, une à chaque bout de l'Italie. Au nord, à Milan, Ferraro assiste, le flic donc, assiste à la télé avec sa fille qui est une jeune ado, à un défilé de mode du célèbre Varaldi. En toute fin de show, un coup de feu éclate, et alors que le maestro se baisse pour ramasser des fleurs, une jeune mannequin est tuée. Tout au sud de l'Italie, Aïcha, dite yeux bleus, une jeune migrante libyenne, débarque de l'un de ces rafios pourris avec son frère Muammar. Muammar qui se fait bientôt arrêter. Il voulait rejoindre Milan où les attend Youssef, leur frère aîné. Laissée à elle-même, elle a une dizaine d'années, elle va devoir se débrouiller toute seule. Heureusement, elle parle un petit peu l'italien. Et elle va être aidée. Chaperonné, sauvé, c'est difficile à dire, par Oreste. Oreste, c'est un clochard barbu, surnommé bizarrement Moustache.
En italien dans le texte.
En italien dans le texte. Tandis que Ferraro, donc au nord.
Je dis rien.
Ferraro, pardon.
Ah, voilà.
Ferraro,
oui.
Oui. Le flic va devoir enquêter donc dans les milieux huppés et branchés de la capitale de la Lombardie. Lui, il est issu du quartier pauvre de Milan, le Quarto Ogiaro. On dit, c'est dans certains milieux, que c'est un peu le Bronx de Milan. Alors du coup, dans les milieux huppés, il ne s'y sent pas vraiment à l'aise. Surtout qu'il va être associé pour cette enquête à son ex-femme. Son ex-compagne qui est devenue une super fliquesse, la dottoressa...
Fliquette peut-être.
Fliquette, oui. La dottoressa Rinaldi. Et il va être aussi associé à une certaine Luisa, qui est la diva de la mode et qui va en fait lui servir d'introduction dans ce milieu qu'il ne connaît pas du tout, bien évidemment. Et si on revient au sud, moustache et yeux bleus vont affronter les risques et les périls d'un voyage sans billets dans les trains italiens. Les flics du rail, un voyageur vaniteux et mauvais. Plusieurs donc petites histoires. On se doute bien que comme ils vont à Milan, les deux histoires vont finir par se retrouver, mais c'est pas vraiment l'important. C'est ce qu'ils racontent de l'Italie. Ça pourrait être un livre très sombre, voire plombant, mais en fait, Biondio agrémente ses intrigues d'une foultitude de personnages secondaires qui adoucissent le ton, voire font carrément rire le lecteur. Les déambulations du flic milanais, un peu ronchon, dans les dédales de l'atelier de Varaldi, sont à la fois loufoques et criants de vérité, enfin, pour ce que j'en sais du moins. Il sait aussi mettre beaucoup d'humanité, essentiellement chez les plus pauvres de ce roman, tant dans le quartier défavorisé de Quarto Ogiaro que dans les rencontres du binôme improbable Aïcha Moustache, leur rencontre avec une ex-infirmière devenue prostituée, est plus que touchante. La façon dont Mimo, le caïd du quartier de Milan, se mêle de trouver un logement vacant pour une famille de migrants tunisiens est aussi drôle qu'émouvante. Alors que côté mode, on se dispute pour une paire de sandales à plusieurs milliers d'euros au milieu de jeunes femmes anorexiques, les fameuses sirènes donc qui ont du charme, donc celles du titre, et ces jeunes femmes qui pensent conquérir le monde avec leurs déhanchés majestueux. L'auteur sait être incisif, mais aussi sarcastique. De nombreuses petites phrases bien senties ou drôles viennent pimenter le récit. Je fais juste deux courts extraits. À propos de Varaldi, donc celui qui présente le défilé de mode. C'est un bel homme, Varaldi. Il exhibe coquettement les rides de son visage, comme s'il les avait conquises d'année en année, et pour pouvoir enfin les montrer. Et à propos de Mimo, le gangster, qui discute avec un voisin, à propos des malfrats qui profitent de la détresse des migrants sans logis. Donc, un petit dialogue. Des Italiens ? Non, des Maghrébins, répliqua Mimo. Et avec un sourire sardonique, il ajouta « Ils viennent chez nous pour nous voler le travail malhonnête. » C'est une honte.
Ça rappelle des sketchs en France.
Voilà, exactement. Vous comprendrez que j'ai beaucoup aimé ce roman. Biondio là, fait vraiment un très beau livre. Et sous son air de pas y toucher comme ça, de rire un peu de tout, c'est très sérieux et c'est très, très fort ce qu'il raconte. Si je rajoute cerise sur le gâteau, c'est le cas de dire que, comme on est en Italie, il y a quelques petites dégustations de produits aussi typiques que simples et délicieux, des carbonara, une salade de fenouil, céleri, juste un peu de sel et d'olive. C'est un auteur à savourer. Gianni Biondio, Le charme des sirènes, traduit par Serge Cadupani.
Et c'est chez Métayer, dans la collection Métayer Noir.
Exactement.
Voilà, et bien il est temps de se dire au revoir. Donc on va prendre une petite minute pour vous souhaiter un bon boudin, une bonne fin d'année. Et puis on réitérera des vœux l'année prochaine. Donc c'est notre dernière émission. On va vous dire au revoir avec un bouquin ou plusieurs. Vous allez peut-être avoir quelques jours de congé dans un coin, un bon bouquin, tout va bien.
Lisons, lisez et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Clifford Dwayne, America.